Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL, il est 10h. Les informations, c'est tout de suite avec vous, Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Flavie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. À la une, les gilets jaunes à nouveau sur le pavé. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui en France. Nous ferons le point à Paris où les premiers contestataires sont arrivés. Dans ce journal également, les nouvelles menaces d'Al-Qaïda envers Charlie Hebdo. Les mesures anti-Covid annoncées hier insuffisantes concernant les tests, selon le président du syndicat des jeunes biologistes. Les 80 ans de la découverte de la grotte de Lascaux et puis les sports. Romain Bardet abandonne sur le Tour de France. La 14e étape se déroulera sans lui aujourd'hui entre Clermont-Ferrand et Lyon. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Grand soleil quasiment partout.
Ouais, presque. On a une petite bande nuageuse qui va du Cotentin jusqu'au Hauts-de-France. C'est pas grand-chose, ça va se dissiper assez rapidement. Et puis on a encore quelques averses orageuses sur le sud de la Corse. Partout ailleurs, un beau ciel bleu qui va durer toute la journée. Au pire, on attend quelques averses orageuses en fin de journée sur les Alpes du Nord. C'est à peu près tout. Quant aux températures, elles sont de plein été, pas du tout de saison. 21 degrés attendus à Dunkerque, 23 à Quimper, 26 à Paris cet après-midi, 27 à Verdun, 29 degrés à Nevers et Clermont-Ferrand, 30 à Toulon, 32 à Montauban et 33 degrés à Avignon.
Merci Valérie.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
Combien seront-ils ? La question reste en suspens alors que les Gilets jaunes remettent le couvert aujourd'hui, 2 ans après le lancement de leur mouvement. Des appels à la mobilisation ont été lancés un peu partout en France, de Lille à Marseille, en passant par Nantes, Bordeaux, Toulouse ou Strasbourg. Et Paris, bien sûr, où plusieurs points de convergence ont été annoncés. Selon les autorités, 4 à 5 000 personnes sont attendues, dont plusieurs centaines de casseurs. Bonjour Sinamir.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la place de la Bourse, l'un des lieux de rassemblement où les premiers manifestants allaient montrer le bout du nez.
Ils sont une petite centaine pour le moment, oui, à se regrouper autour du palais Brongniart et à ressortir 2 ans après le début du mouvement. Yann, ce gilet jaune de la colère, beaucoup de revendications devraient se mélanger dans le cortège qui s'élancera vers midi pour rejoindre la porte de Champéret. Pouvoir d'achat, patron de discothèque en colère, anti-masque, la crise sanitaire n'a pas épargné les petits revenus, on le sait, voilà pourquoi. Marion est arrivée de Belgique ce matin et a ressorti le gilet avec son compagnon, prêt à défiler sous le soleil toute la journée dans les rues de Paris.
C'est très très important de montrer que le peuple doit s'exprimer. Bientôt on pourra plus se payer à manger, donc notre mal-être économique et psychologique, la crise du Covid a des conséquences aussi psychologiques désastreuses. Je pense que les suicides, les dépressions sont pires que le Covid maintenant. Et un petit coup de gueule si je peux me permettre sur les masques, pourquoi on ne les a pas à disposition gratuitement dans les écoles ou dans les entrées des magasins. Et ils vendent ça à des prix d'or, donc pour moi la confiance est perdue et notre santé s'en fout un petit peu.
On surveillera aussi l'important dispositif policier qui encadre les rassemblements du jour. On dénombre déjà 23 interpellations avant cette manifestation. Les contrôles se multiplient depuis 7h ce matin aux abords des Champs-Élysées, un peu plus loin où les manifestations sont interdites. Les gestes barrières doivent être respectés, a rappelé le préfet de police sur place ce matin. Et puis en plus d'un rassemblement test pour les Gilets jaunes après des mois d'absence, c'est aussi une journée test pour la police en matière de maintien de l'ordre après 2 années de manifestations parfois chaotiques. Des milliers de blessés des deux côtés, le lanceur de balles de défense, l'utilisation du LBD va se faire dès aujourd'hui à 2 et non plus seul. Et puis des médiateurs seront en contact aussi des manifestants pour, à la manière des anglo-saxons ou des pays du nord de l'Europe, tenter de contenir toute escalade de violence dans la manifestation. Les renseignements préfectoraux redoutent la présence, vous l'avez dit, de plusieurs centaines de casseurs d'éléments radicaux dans les rues de la capitale aujourd'hui.
Merci Sinamir, en direct de la place de la Bourse à Paris pour RTL. Précisons qu'une trentaine de stations de métro sont fermées aujourd'hui dans la capitale, notamment sur les lignes 1, 2, 3, 9 et 13. RTL 10h03, une semaine et demie après le début du procès des attentats de janvier 2015, une nouvelle ombre plane au-dessus de Charlie Hebdo. Alors que les témoins et les proches se succèdent à la barre afin de rendre hommage aux victimes, Al-Qaïda a menacé d'attaquer à nouveau la rédaction de l'hebdomadaire satirique. En cause, les caricatures du prophète rééditées le jour même de l'ouverture du procès. Et ce sont 2 menaces qui ont été publiées depuis, Aurélia Valarié.
Oui, c'est une information donnée par un groupe américain spécialisé en organisation djihadiste qui a analysé et confirmé ces 2 messages de menace contre Charlie Hebdo. Le premier a été mis en ligne avant le 2 septembre, date de l'ouverture du procès des attentats du journal. Et le second message, publié hier, date symbolique du 11 septembre, dans lequel on peut lire cette phrase « Le raid contre Charlie Hebdo n'était pas un incident ponctuel ». Alors, réelle menace ou non, selon la spécialiste Anne Guidicelli, fondatrice de Terrorisque, c'est une information à prendre au sérieux, mais elle précise qu'Al-Qaïda a plus tendance à revendiquer ses attaques qu'à les annoncer.
Je dirais que le seul fait d'appeler à cette action peut générer des réactions de la part d'individus plus ou moins en connexion avec cette organisation au niveau central ou au niveau de ses filiales dans telle ou telle région. Si c'était dans un cas de figure d'une opération qui aurait été préparée, elle n'aurait pas été annoncée comme une menace d'action en amont.
Pour la spécialiste, ce serait donc plus de la propagande. Néanmoins, pour les autorités, pas question de baisser la garde. La surveillance autour de Charlie Hebdo reste à un niveau très élevé.
Merci beaucoup Aurélia Valarié pour toutes ces précisions. La parole au territoire, c'est l'axe choisi par Jean Castex pour lutter contre l'expansion du coronavirus. 42 départements sont désormais en zone rouge et parmi les mesures annoncées par le Premier ministre figure la priorisation des tests à destination des personnes malades, des cas contacts et des soignants. Déception chez Lionel Baran, le président du syndicat des jeunes biologistes, invité d'RTL ce matin. Il a estimé que la distinction était déjà appliquée.
Ce ne sont pas à nos secrétaires de décider si le nez qui coule ou quelqu'un qui se sent pas bien, c'est un symptôme Covid. On se fait déjà agresser physiquement et verbalement. Et c'est vrai que sur le terrain, je pense que le Premier ministre se rend pas bien compte, mais ça va pas régler le problème.
Le principal problème, c'est le manque de réactifs. Il y a la moitié des labos qui sont aujourd'hui en pénurie. Et il faut parfois attendre 7 jours pour avoir des résultats. Ça, le chef du gouvernement n'en a même pas parlé hier.
Eh bien, c'est ça qui pose problème, parce qu'il vaut mieux faire 500 000 tests et avoir les résultats en 24 heures pour bloquer les chaînes de transmission que de faire 1 million de tests, de faire du chiffre pour faire du chiffre et d'avoir des résultats en 8 jours. Et ce qu'il nous faut, nous, c'est des machines, c'est du réactif, parce que c'est toujours tendu en ce moment et certains sont en rupture, et il nous faut du personnel. C'est sur ces éléments-là que nous, on attendait des annonces. En gros, une simple piche nette et l'ensemble du château de cartes s'écroulera complètement parce qu'on est en pénurie et les fournisseurs n'arrivent pour l'instant plus à suivre cette cadence.
Lionel Baran, le président du syndicat des jeunes biologistes, ce matin sur RTL avec Stéphane Carpentier. 9400 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés hier en France, ainsi que 106 nouveaux foyers. 40 décès supplémentaires sont à déplorer. Puis le Brésil, lui, a franchi hier la barre des 130 000 morts. On marque une pause dans ce journal de 10 heures avant de redécouvrir la grotte de Lascaux. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL, le 10h avec Yann Bouchery.
10h08, direction la Dordogne à présent pour un anniversaire, celui des 80 ans de la découverte de Lascaux le 12 septembre 1940. En effet, 4 adolescents pénétraient dans cette grotte datant de 20 000 ans, avec sur les parois 2000 peintures rupestres en parfait état de conservation. Et un sentier balisé va être inauguré aujourd'hui pour restituer l'émotion de cette découverte. Denis Grandjou, vous nous emmenez en balade.
Oui, pour découvrir ce sentier, il faut des bonnes chaussures de marche et un téléphone chargé, comme l'explique Thierry Félix, concepteur du sentier.
Grâce à une application dédiée, en 12 épisodes, vous revisez l'aventure de la découverte. Dès que vous arrivez à un endroit, donc à une station, on va dire, où il y a du contenu oral ou iconographique, votre portable vous prévient.
Un véritable film d'aventure raconté par ces acteurs grâce à des enregistrements sonores de leurs témoignages, comme celui de Marcel Ravida, mort en 1995.
C'est en fait du hasard, plutôt qu'autre chose. D'autant plus que ce trou était connu, et il s'agissait d'avoir le courage de descendre, et c'est tout.
À 90 ans largement passé, Marinette, la veuve de Marcel, sera là même si elle avoue avec malice qu'elle ne se sent pas tout à fait capable d'accomplir les 4,5 km du parcours.
Je me dis, au moins j'y serai pour les 80 ans, mais tout, j'espérais bien y être, et j'y suis encore.
Aux côtés de Marinette, les familles des découvreurs de Lascaux seront réunies ce matin pour inaugurer ce chemin sur la colline boisée qu'empruntèrent 4 copains insouciants le 12 septembre 1940.
Le reportage de Denis Grandjou à Lascaux pour RTL. 10h09, les sports à présent et le cyclisme. Il y a eu la déception Thibaut Pinot, il y a aujourd'hui les regrets Romain Bardet. Tour de France, tour de souffrance pour le cyclisme tricolore. Le coureur âgé de Zer a chuté hier dans la 13e étape. Un scanner passé dans la soirée a révélé une commotion cérébrale. Romain Bardet est donc contraint à l'abandon. Plus aucun Français dans le top 10, puisque Guillaume Martin a perdu plus de 2 minutes sur Roglic et Pogacar, les deux leaders, au terme d'une étape remportée au Puy Marie par le Colombien Daniel Martinez.
RTL, Tour de France 2020.
L'étape du jour, Laurent Jalabert avec Christophe Paco.
Roglic sera donc encore en jaune aujourd'hui et le peloton s'élancera donc, messieurs, sans Romain Bardet pour une journée entière en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ça va rouler aujourd'hui, 194 km entre Clermont-Ferrand et Lyon. Laurent Jalabert, c'est tout plat ou presque au début, mais attention à la fin. Voilà, c'est une étape classée par l'organisation comme étape sans difficulté, une étape de plat, donc normalement rendez-vous pour les sprinteurs, et quand on regarde le profil, il y a quand même du relief. C'est pas tout à fait plat, entre le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, eh bien les coureurs auront pas moins de 4 difficultés à franchir, dont un col en deuxième catégorie, le col du Béal, situé au 68e kilomètre. Alors, un endroit peut-être pour que la course déclenche une échappée qui pourrait se présenter au bout et mettre les sprinteurs en échec. On a vu que la plupart étaient en difficulté dans l'étape d'hier, et notamment le maillot vert. Peut-être un endroit justement aussi pour Peter Sagan et ses hommes qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de renvoyer dans les cordes et peut-être même à la maison Sam Bennett, le porteur du maillot vert. C'est peut-être la seule solution pour Sagan pour amener ce maillot à Paris pour la 8e fois. Donc on peut s'attendre à un départ musclé de l'équipe Bora de Peter Sagan.
Sans oublier les deux dernières côtes à la fin. Petite côte qui ressemble à une grande classique de cyclisme.
À la côte de la Croix-Rousse, je vous vois venir, à la côte de la Croix-Rousse, 1 km 400 à 5% de moyenne, mais surtout à peine distante de 5 km de l'arrivée, donc un tremplin idéal pour un puncher, histoire d'aller cueillir une belle victoire sur le tour.
On arrivera vers 18h, départ à 13h20 de Clermont-Ferrand. Bonne journée Laurent Jalabert.
À tout à l'heure.
Merci messieurs, la course à vivre toutes les demi-heures sur RTL et l'arrivée bien sûr en direct. Le foot et la Ligue 1, 0-0 hier soir entre Bordeaux et Lyon, suite de la troisième journée avec Montpellier-Nice à 17h et Saint-Étienne-Strasbourg à 21h. Match à vivre dans RTL Foot, juste après on refait le match, présenté à 18h30 par Christian Olivier. À l'US Open de tennis, la finale opposera l'Autrichien Thiem à l'Allemand Zverev. Dominic Thiem a sorti le Russe Medvedev en 3 manches. Alexander Zverev a battu l'Espagnol Pablo Carreño Busta en 5-7. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 14, le 9, le 13, le 8, le 4, le 10, le 12 et la dernière minute, le numéro 13. RTL, 10h et 12 minutes. Dans un instant, votre nouvelle émission du samedi. On ne répond plus de rien avec Karine Le Marchand et Laurent Baffie.